Aujourd'hui, je voudrais vous parler d'un thème, je crois, qui est d'actualité, l'insoumission. Nous sommes, c'est vrai, dans une société qui est remplie d'exemples d'insoumission. Ça touche tous les âges, toutes les couches de la société. L'insoumission aux parents, l'insoumission aux professeurs, l'insoumission à la police. Oui, c'est une chose de plus en plus courante et banale. On dirait que c'est presque devenu la norme d'être insoumis. Alors l'insoumission, bien sûr, elle a toujours existé, elle remonte à l'origine de l'humanité. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, elle prend des proportions de plus en plus importantes. Et en France, on est gâté. On a même un parti politique qui a pris ce nom-là. C'est dire à quel point nous sommes atteints par ce fléau de l'insoumission. Alors aujourd'hui, j'aimerais que nous regardions ensemble ce que dit la parole de Dieu de l'insoumission. Comme je l'ai dit, l'insoumission, c'est pas quelque chose de nouveau, ça remonte à l'origine de l'humanité. Les premiers humains insoumis, c'est nos premiers parents, Adam et Ève, qui se sont révoltés contre Dieu et contre ses consignes. Mais en réalité, le premier des insoumis, c'est Satan. C'est lui qui s'est rebellé contre Dieu, lui qui était un ange de lumière. Et ce virus de l'insoumission, eh bien, il a contaminé toute l'humanité. Mais j'ai quand même l'impression que nous, Français, on est particulièrement concernés par ce problème. On est connus pour être des rouspéteurs, des rebelles. La soumission n'est pas à l'ordre du jour, c'est presque devenu un gros mot quand on parle de soumission. Pourtant, nous devrions réaliser que la soumission, elle est à la base de la nature de Dieu même. Dieu, qui est unique, existe en trois personnes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, et nous voyons que le Fils est soumis au Père, que le Saint-Esprit est soumis au Père et au Fils. Et c'est pas une question d'hiérarchie ou de valeur, mais de rôle. Les trois sont Dieu, mais chacun a sa fonction. Quant à l'insoumission, elle est la base même de la nature de Satan. Il s'est rebellé contre Dieu par orgueil et par désir d'indépendance. Le directeur du Taupe chrétien, David Nolan, avait fait une pensée sur ce thème de l'insoumission, et quand j'ai lu cette pensée, ça m'a incité à vous parler sur ce thème ce matin. Je me suis un peu inspiré de ce que j'ai lu dans cette pensée, et ça m'a interpellé moi-même. Quand on apporte quelque chose, c'est déjà qu'on a été interpellé, touché soi-même par ces choses, et on a besoin de se laisser reprendre par le Seigneur et interpeller. L'insoumission de Satan est l'exemple par excellence de la déchéance. C'est ce que dit David Nolan. L'insoumission de Satan est l'exemple par excellence de la déchéance résultant de l'orgueil et du désir de supplanter Dieu. Au final, quand nous sommes insoumis, nous perdons l'image de Dieu et nous ressemblons un peu plus à Satan. Malheureusement, nous avons hérité de nos ancêtres lointains, Adam et Ève, de ce gène de l'insoumission, et il est ancré en nous depuis notre petite enfance. Alors je vais vous donner un exemple personnel, enfin un exemple dans ma famille. Le plus petit de mes, le plus jeune de mes petits-enfants, le fils d'Ève et Étienne, il vient d'avoir 2 ans au mois d'août, et il commence à s'exprimer, il commence à parler un peu. Des fois, on a besoin d'un traducteur, on ne sait pas, on ne comprend pas tout ce qu'il dit. Mais figurez-vous que la première phrase complète qu'il a dite il y a à peu près un mois est la suivante, « J'ai pas le droit, mais je vais le faire quand même. » 2 ans. L'insoumission, ça commence tôt. Il est adorable au demeurant. Mais nous voyons que ce gène de l'insoumission, il est déjà en lui, dès sa plus petite enfance. Alors que dit la Bible de l'insoumission ? Dans le premier livre de Samuel, au chapitre 15, nous pouvons voir le récit de la guerre de Saül contre les Amalécites. Dieu avait donné des instructions précises à Saül concernant ce qu'il devait faire. Il devait exterminer tout, même tous les animaux, il devait rien laisser. Et il l'a fait à sa manière. Il a épargné le roi Agag, qu'il a ramené prisonnier, mais il l'a épargné. Et puis il a aussi gardé les plus beaux animaux du troupeau, que ce soit les brebis, les bœufs, les moutons, tout. Alors, que lui a dit Dieu à ce sujet par l'intermédiaire du... Alors, on va déjà lire donc ce texte. C'est ce que Dieu a dit par l'intermédiaire de Samuel à Saül. Alors que tu te considérais comme un personnage peu important, tu es devenu le chef des tribus d'Israël et l'Éternel t'a oint pour t'établir roi d'Israël. Il t'a envoyé en campagne avec cet ordre précis. Va et détruis les Amalécites pour me les vouer, ce peuple de pécheurs, en les combattant jusqu'à leur totale extermination. Alors, pourquoi n'as-tu pas obéi à l'ordre de l'Éternel ? Pourquoi as-tu fait ce qu'il considère comme mal en te précipitant sur le butin ? Saül répliqua, « Mais si, j'ai obéi à l'ordre de l'Éternel et j'ai accompli la mission qu'il m'avait confiée. J'ai ramené Agag, roi d'Amalek, et j'ai exterminé les Amalécites pour les vouer à l'Éternel. Mais... les soldats ont prélevé sur le butin les meilleurs moutons et les meilleurs bœufs qui devaient être voués à l'Éternel par destruction pour les offrir en sacrifice à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel lui dit alors, les holocaustes et les sacrifices font-ils autant plaisir à l'Éternel que l'obéissance à ses ordres ? Non, car l'obéissance est préférable au sacrifice. La soumission vaut mieux que la graisse des béliers, car l'insoumission est aussi coupable que le péché de divination et la désobéissance aussi grave que le péché d'idolâtrie. Puisque tu as rejeté les ordres de l'Éternel, lui aussi te rejette et te retire la royauté. » Alors, ça va loin, c'est dur, ces paroles. Mais... quand Dieu dit quelque chose, il faut s'y conformer, même si on ne comprend pas pourquoi il nous demande telle ou telle chose. L'insoumission, vous vous rendez compte qu'elle est considérée par Dieu aussi grave que l'idolâtrie, que la divination. C'est incroyable, hein ? Je pense que nous n'aurions certainement pas l'idée d'aller nous prosterner devant des statues, devant des idoles. Nous ne voulons pas non plus faire de la divination, mais lorsque nous sommes rebelles, lorsque nous ne nous soumettons pas à ce que le Seigneur nous demande, eh bien, pour Dieu, c'est aussi grave que l'idolâtrie. Il faut que nous en prenions conscience. En adoptant, notre Dieu est un Dieu d'ordre, oui. Et la soumission contribue à l'ordre. Lorsqu'il y a insoumission, il y a désordre. C'est vrai dans la vie courante et c'est vrai dans l'Église. Dieu nous demande de nous soumettre aux autorités qu'il a mises en place, que ce soit dans l'Église ou que ce soit dans la vie normale. Et nous voyons autour de nous tellement d'exemples d'insoumission pour un oui ou pour un non. On va dans la rue pour protester. Alors c'est vrai, il y a des causes justes, mais nous sommes par nature des insoumis, c'est vrai. Des gens qui sont toujours rebelles et revendicateurs. Alors, voyons ce que dit la parole de Dieu par rapport à l'obéissance. Dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 13, verset 17, « Obéissez à vos conducteurs et soumettez-vous à eux, car ils veillent constamment sur vous, en sachant qu'ils devront un jour rendre compte à Dieu de leur service, qu'ils puissent ainsi s'acquitter de leur tâche avec joie et non pas en gémissant, ce qui ne vous serait d'aucun avantage. » Et puis, en parlant des jeunes gens, Pierre dit, « Vous de même, jeunes gens, soumettez-vous aux responsables de l'Église, et vous tous, dans vos relations mutuelles, revêtez-vous d'humilité, car l'Écriture déclare, « Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. » Quelque part, l'insoumission, c'est de l'orgueil. C'est parce qu'on veut aller au bout de ce qu'on a envie de faire, et c'est parce que on veut avoir le dernier mot en tout. Jacques, dans sa lettre, dit aussi « Voici ce que déclare l'Écriture, Dieu s'oppose aux orgueilleux, mais il accorde sa grâce aux humbles. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. » Oui, le diable, c'est l'initiateur de la désobéissance. C'est lui qui est le père du mensonge, le père de la désobéissance, en quelque sorte. C'est lui qui s'est opposé la première fois. Et quand c'est vrai que quand on s'oppose et qu'on est désobéissant, en fait, eh bien, on suit la voie de Satan. Et Dieu, c'est tout le contraire. Dieu, c'est dans sa nature la soumission. Alors nous ne devons pas seulement nous soumettre aux responsables de l'Église, mais aussi aux responsables politiques. Nous voyons aussi dans cette même épître de Pierre, au chapitre 2, « Pour l'amour du Seigneur, soumettez-vous à vos semblables, qui sont des créatures de Dieu, au roi qui détient le pouvoir suprême, comme à ses gouverneurs chargés de punir les malfaiteurs et d'approuver les gens honnêtes. Car voici ce que Dieu veut, c'est qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence toutes les calomnies portées contre vous par les insensés, les ignorants. Vous agirez ainsi en homme libre, sans faire pour autant de votre liberté un voile pour couvrir une mauvaise conduite, car vous êtes des serviteurs de Dieu. Témoignez à tout homme le respect auquel il a droit. Aimez vos frères en la foi. Révérez Dieu. Respectez le roi. » Oui, c'est vrai que nous sommes libres, mais même si nous devons nous soumettre, c'est avec discernement, parce que des fois, ça peut être des causes injustes. Et Dieu nous demande du discernement aussi, parce que nous ne devons pas, notre liberté ne doit pas être un voile pour couvrir une mauvaise conduite. Donc on est appelé aussi à agir avec discernement. Mais quand Pierre ou Paul parlaient de soumission aux autorités, vous vous rendez compte quelles étaient les autorités du temps de Paul ou de Pierre? Des Nérons ou des gens comme ça, eh bien oui, malgré tout, il fallait se soumettre dans la mesure de ce que Dieu approuve, bien sûr. Pas nous soumettre en faisant des choses mauvaises, mais en étant soumis aux autorités que Dieu a placées, parce que la Bible nous dit par ailleurs que toute autorité vient de Dieu. Pierre recommande aussi quelque chose qui peut nous surprendre, c'est par rapport aux esclaves et à leur maître. Alors bien sûr, aujourd'hui, ça paraît un peu décalé, ça, de parler des esclaves. Serviteurs, soumettez-vous à votre maître avec tout le respect qui lui est dû, non seulement s'il est bon et bienveillant, mais aussi s'il est dur. En effet, c'est un privilège que de supporter des souffrances imméritées par motif de conscience envers Dieu. Quelle gloire y a-t-il en effet à endurer un châtiment pour avoir commis une faute? Mais si vous endurez la souffrance tout en ayant fait le bien, c'est un privilège devant Dieu. Wow. On ne considère pas la souffrance comme un privilège, mais oui, même des fois, il faut. Évidemment, il n'y a plus aujourd'hui l'esclavage, en France en tout cas, n'existe plus, mais malgré tout, il y a des situations où on peut être confronté à des injustices, on peut avoir des patrons ou des responsables qui agissent d'une façon injuste envers nous, eh bien, on doit quand même se soumettre. Et notre attitude, c'est aussi un témoignage. Même si on sait que ces choses sont injustes, eh bien, on doit les supporter. Parce que nous avons à avoir une attitude qui interpelle aussi ceux que nous côtoyons. Et c'est vrai que parfois des persécuteurs ou des responsables ont pu être touchés et interpellés par le comportement de ceux qu'ils persécutaient. En voyant leur attitude, ça les a interpellés. Et c'est vrai que notre comportement peut toucher des inconvertis qui nous observent et qui pourront peut-être se poser des questions en voyant que notre comportement est différent de celui du commun des mortels, pas parce que nous sommes meilleurs, mais parce que nous sommes habités par celui qui est le meilleur et qui doit nous influencer. Alors Paul, dans sa lettre aux Éphésiens, lui, il exhorte ses lecteurs à vivre par l'esprit. Et il nous montre qu'il ne s'agit pas simplement d'une expérience à un moment donné, mais de quelque chose qui s'entretient, qui fait appel à notre écoute et à notre vigilance. Et il fait aussi référence à la soumission. C'est pourquoi ne soyez pas déraisonnables, mais comprenez ce que le Seigneur attend de vous. Ne vous enivrez pas de vin, car cela vous conduirait à une vie de désordre, mais laissez-vous constamment remplir par l'esprit. Entre parenthèses, on peut être baptisé du Saint-Esprit un jour, mais c'est pas une finalité. Nous devons veiller à être constamment remplis par l'esprit. Il doit y avoir un renouvellement constamment. C'est pas quand on a reçu une fois une visitation du Saint-Esprit, on n'est pas arrivé. On doit entretenir la flamme. On doit laisser le Seigneur nous constamment nous remplir et nous renouveler. Mais ainsi vous vous encouragerez mutuellement par le chant de psaumes, d'hymnes, de cantiques inspirés par l'Esprit. Vous louerez le Seigneur de tout votre cœur par vos chants, vos psaumes. Et à tout moment et pour toute chose, vous remercierez Dieu le Père au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres, vous femmes en particulier, chacune à son mari, et cela par égard pour le Seigneur. Le mari, en effet, est le chef de sa femme, comme le Christ est le chef, la tête de l'Église, qui est son corps, et dont il est le Sauveur. Mais comme l'Église se soumet au Christ, de même la femme se soumet en toutes circonstances à son mari. Alors on peut remarquer que dans ce texte, Paul dit au verset 21, parce que vous révérez le Christ, vous vous soumettrez les uns aux autres. Ça signifie que nous devons nous écouter et surtout écouter le Saint-Esprit. Si la communauté et marche selon l'esprit, si elle vit conformément à l'Écriture, donc elle sera dirigée par le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit parle à tous. Et nous devons nous écouter parce que le Saint-Esprit va parler à l'un ou à l'autre. Et quand les uns et les autres s'expriment et qu'ils ont été visités par le Saint-Esprit, eh bien nous devons nous écouter les uns les autres et nous soumettre les uns aux autres. Bien sûr, selon le Seigneur. Le Saint-Esprit parle à tous. Dans ce texte des Éphésiens, Paul parle aussi de la soumission de la femme à son mari. Alors beaucoup de personnes à ce sujet accusent Paul de misogynie. Mais c'est parce qu'ils ne comprennent pas ce qu'est réellement la soumission. Vous vous rendez compte que dans la Trinité même, le Fils est soumis au Père, le Saint-Esprit est soumis au Fils et au Père. La soumission, ce n'est pas une question de valeur ou de grandeur ou de supériorité. Dieu a prévu que l'homme, c'était le responsable. Il a été créé et la femme a été tirée de lui. Et il a la responsabilité de veiller sur sa femme, sur son épouse. Mais il n'a pas plus de valeur qu'elle. Il n'est pas supérieur à elle. Il y a une parfaite égalité, mais il y a un rôle différent. Et c'est cela qu'il faut comprendre. Nous devons, c'est vrai, l'épouse doit se soumettre à son mari, et s'il joue bien son rôle, c'est une bénédiction pour la femme, n'en déplaise aux féministes, car voyez la suite du texte, dans cette même lettre de Paul. Quant à vous, Marie, que chacun de vous aime sa femme comme le Christ a aimé l'Église, il a donné sa vie pour elle, afin de la rendre digne de Dieu, après l'avoir purifiée par sa parole, comme par le bain nuptial. Il a ainsi voulu se présenter cette Église à lui-même, rayonnante de beauté, sans tache, ni ride, ni aucun défaut, mais digne de Dieu et irréprochable. Voilà comment chaque mari doit aimer sa femme comme si elle était son propre corps. Ainsi, celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Car personne n'a jamais haï sa propre chair, au contraire, chacun la nourrit et l'entoure de soins, comme le Christ a fait pour l'Église, parce que nous sommes les membres de son corps. Et Paul fait ainsi l'analogie entre le couple humain, le mari et la femme, et Christ et l'Église. Et on doit fonctionner sur ce modèle-là. Si quelqu'un aime son épouse comme Christ a aimé l'Église, oui, je pense que l'épouse n'aura pas de difficulté à se soumettre à un tel mari. Dans sa lettre aux Colossiens, Paul parle également de la soumission dans le cadre de la famille. Femmes, soyez soumises chacune à son mari, comme il convient à des femmes qui appartiennent au Seigneur. Marie, aimez chacun votre femme et ne nourrissez pas d'aigreur contre elle. Enfants, obéissez à vos parents en toutes choses. C'est ainsi que vous ferez plaisir au Seigneur. Mais vous, pères, n'exaspérez pas vos enfants pour ne pas les décourager. Or, aujourd'hui, bien souvent, ce ne sont plus les enfants qui sont soumis aux parents, mais c'est plutôt les parents qui sont soumis aux enfants, qui font tous leurs caprices. Et c'est pas comme ça que ça doit marcher. Il y a une soumission qui est enseignée par la parole de Dieu. Et d'autre part, c'est vrai que cette discipline qui est recommandée, elle doit se faire aussi avec sagesse et discernement, pour ne pas décourager les enfants. Il doit y avoir une attitude juste aussi de la part des parents. Alors bien sûr, si dans une famille tous les membres sont disciples de Christ, il est plus facile d'appliquer les principes de la parole de Dieu, mais parfois dans un couple, l'un appartient au Seigneur et pas l'autre. Alors comment se comporter dans ce cas-là? Pierre donne des pistes dans sa première épître. Femmes, soyez de même soumises à vos maris, afin que si quelques-uns n'obéissent point à la parole, ils soient gagnés sans parole par la conduite de leurs femmes, en voyant votre manière de vivre chaste et réservée. Cela rejoint un peu le comportement des esclaves vis-à-vis de leur maître injuste. Le comportement de celui qui appartient au Seigneur, il peut, dans certains cas, interpeller l'autre et le faire évoluer. Alors, décidons aujourd'hui de nous soumettre au Saint-Esprit et nous ressemblerons un peu plus à notre Seigneur, lui qui, toute sa vie, a montré une attitude de soumission déjà à ses parents terrestres. Le seul passage dans la Bible qui nous est parlé de la jeunesse, de l'enfance de Jésus, c'est lorsque ils sont allés pour la fête au temple et que Jésus est resté au temple, et que les parents sont retournés, ils ont trouvé Jésus qui parlait avec les prêtres et qui étonnait les prêtres par sa sagesse. Et donc, il est dit lorsque, au retour, quand il est revenu avec eux pour aller à Nazareth, il est dit, puis il descendit avec eux pour aller à Nazareth et il leur était soumis. Mais on voit que jusqu'à la fin de sa vie, il a été soumis à son Père Céleste. Au moment de son agonie à Gethsémané, 3 des 4 évangiles nous rapportent que Jésus a fait cette prière. « Père, si tu voulais éloigner de moi cette coupe, toutefois, que ma volonté ne se fasse pas, mais la tienne. » Ça, c'est dans Luc 22, verset 42, mais il y a d'autres textes dans l'évangile de Marc et de Matthieu qui sont parallèles et qui disent la même chose. Et on voit vraiment que jusqu'à la fin de sa vie, Jésus a été soumis à son Père. Il ne souhaitait pas aller sur la croix, Jésus. Il a prié, « Père, éloigne de moi cette coupe, si tu pouvais éloigner de moi cette coupe, mais toutefois, pas ma volonté, mais la tienne. » Jésus a été soumis, et c'est parce qu'il a été soumis que nous sommes ici ce matin. Sinon, notre présence ici n'aurait aucun sens si Jésus n'avait pas été soumis. Nous aurions beau nous réunir, nous serions perdus, à jamais. Mais nous sommes sauvés parce que Jésus a accepté de se soumettre à la volonté de son Père. C'est à cause de sa soumission que nous sommes sauvés. Il est allé jusqu'au sacrifice de la croix. Alors sachons comme Jésus dire, « Seigneur, que ta volonté soit faite et non forcément la mienne. » Je vous invite ensemble à prier le Notre Père et à penser aussi à cette parole que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et la volonté de Dieu dans ma vie aussi. Prions. Notre Père qui es au ciel, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen.